plu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Harnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Daniel Defoe naquit à Londres en 1660 dans une famille de dissidents protestants. Il soutint en 1688 l'accession au trône d'Angleterre de Guillaume d'Orange, dont il devint un temps l'émissaire secret. À partir de 1695, il publia des pamphlets, tantôt à la solde des Whigs, tantôt à celle des Tories. L'un de ses brûlots, le plus court moyen d'en finir avec les dissidents, lui valut en 1703 d'être exposé au pilori, où le public vint le bombarder de pétales de roses plutôt que de déjections. En 1704, il riposta par un hymne au pilori et fonda The Review, qui prendra le nom de Mercator en 1713. Ce perpétuel endetté se tourna vers le roman pour se renflouer et fit mouche en 1719 avec Robinson Crusoe, prototype du colonialiste britannique, comme le soulignait James Joyce, mais surtout de l'individu bourgeois, puritain et calculateur seul au monde. Sur le tard, il publia d'autres livres à succès, tels que Moll Flanders, Les Mémoires d'un cavalier, Lady Roxana ou L'heureuse catin. Il acheva ses jours à Londres en 1731. Les vies de Mary Read et d'Anne Bonny, que nous donnons ici dans une nouvelle traduction, sont tirées de l'histoire générale des plus fameux pirates, publiée à Londres de 1724 à 1728 et signée du capitaine Charles Johnson, pseudonyme de Defoe. Dans cette compilation très touffue, le fait divers croustillant coudoie l'observation sociale, non exempte de satire, ou la métaphore utopique, comme dans l'épisode sans doute très extrapolé de la communauté de Libertalia. On peut ainsi discerner dans les figures transgressives de Mary Read et d'Anne Bonny, libre comme l'air, l'incarnation menaçante d'une résistance des femmes au confinement puritain, celui des bourgeoises dans l'étouffant foyer familial, celui des pauvresses dans les fabriques et les maisons de correction. Pour esquisser la vie de Mary Read, son biographe s'est fondé sur les minutes d'un procès qui se tint en 1720 sur l'île de la Jamaïque, à Spanish Town. Là, le pirate Calico Jack Rackham et plusieurs de ses complices furent jugés et pour certains condamnés à la pendaison. Ils avaient été capturés par le capitaine Barney, traqueur de pirates des Caraïbes, qui les aurait surpris en pleine beuverie. Leur état d'ébriété pourrait expliquer leur peu de combativité en cette occasion. De tout l'équipage, seuls trois pirates, moins ivres peut-être, opposèrent une ferme résistance aux chasseurs de primes, et deux de ces forbans intrépides étaient des femmes, Mary Read et Anne Bonny. Cet acte de bravoure leur vaudra deux siècles plus tard quelques lignes admiratives de Jorge Luis Borges, mais aussi une place à part tant dans le panthéon féministe que dans la littérature s'inspirant de l'épopée de la flibuste. Leur capture, d'où naquit cette gloire, coïncide avec la fin de l'âge d'or des pirates, car en 1720, la piraterie dans les Caraïbes est en voie d'éradication, les forçats de la mer qui se font mutins s'exilent loin, en des ailleurs inconnus. La vie de Mary Read décrit l'itinéraire singulier d'une femme soldat, garçon manqué sans le sou, qui doit, pour s'affranchir, changer de sexe, puis se faire pirate. Changer. Dans la vie d'Anne Bonny, le gros récit n'a qu'un lointain rapport avec la flibuste et je ne le lirai pas ce soir. Les destins des deux femmes pirates s'entremêlent et se consument ensemble en un ultime défi à l'orgueil masculin et à la loi des hommes. Ce soir, nous vous lisons « Femmes pirates » de Daniel Defouet. Naissance de Mary Read. Pourquoi on lui fit porter des hauts de chasse? Elle entre au service d'une dame, s'engage dans l'armée, sa conduite au cours de plusieurs combats. Elle tombe amoureuse d'un de ses camarades. Son sexe est découvert. Les deux soldats se marient. Elle s'installe à Breda. Son mari meurt et elle remet ses hauts de chausses. Elle part en Hollande, puis aux Indes occidentales, devient pirate. Anne Bonny, une autre pirate, tombe amoureuse d'elle. Ses aventures. Abordons maintenant une histoire pleine de traits surprenants et d'aventures. Je veux parler de celle de Mary Read et d'Anne Bonny, alias Bonne, qui étaient les vrais noms de ces deux femmes pirates. Les étranges péripéties de leur vie errante sont telles qu'on pourrait être tenté de juger que leur histoire n'est que fable ou roman. Mais comme elle est attestée par des milliers de témoins, c'est-à-dire les habitants de la Jamaïque qui ont assisté à leur procès et entendu le récit de leur vie, après la découverte de leur sexe, nul n'en peut contester la véracité, pas plus qu'on ne peut nier qu'il a existé des pirates tels que Roberts ou Barbe Noire. Mary Read naquit en Angleterre. Sa mère avait épousé un jeune marin qui partit en mer peu après leur mariage, la laissant enceinte d'un enfant qui s'avéra être un garçon. Quant au mari, qui lui fait naufrage ou qui lui périt lors de la traversée, Mary n'aurait su le dire. Toujours est-il qu'il ne revint jamais. Il arriva bientôt à la mer, alors jeune et désinvolte, un événement qui touche fréquemment les jeunes femmes insouciantes. Elle fut enceinte à nouveau, sans mari cette fois, pour être le père de son enfant. Mais de quelles œuvres seule la jeune femme eût su le dire, d'autant qu'elle jouissait d'une excellente réputation parmi ses voisins. Sentant croître son fardeau et soucieuse de cacher sa honte, elle prit congé des parents de son mari, annonçant qu'elle partait vivre à la campagne chez des amis. Et en effet, elle s'en alla, emmenant son jeune fils qui n'avait alors guère plus d'un an. Peu après son départ, son fils mourut, mais la Providence, en retour, se plut à lui donner une fille dont elle accoucha en cachette, sans se blesser, et qui fut notre Mary Read. La mère vécut retirée 3 ou 4 ans jusqu'à l'épuisement de son pécule. Elle forma le projet de revenir à Londres. Sachant que la mère de son mari vivait dans une certaine aisance, elle ne douta pas pouvoir la convaincre de subvenir aux besoins de sa fille, pourvu qu'elle pût faire passer celle-ci pour son fils légitime, dont elle lui avait caché la mort. Mais changer une fille en garçon n'est pas chose aisée, et il lui semblait impossible de tromper une femme de l'âge et de l'expérience de sa belle-mère. Elle se résolut néanmoins d'habiller Mary en garçon et de la présenter à sa belle-mère. La vieille femme proposa d'accueillir son prétendu petit-fils chez elle et de l'élever, mais la jeune femme allégua qu'une telle séparation lui briserait le cœur. Il fut donc conclu entre elles que l'enfant vivrait avec sa mère et que celle qui se croyait sa grand-mère lui allouerait une couronne par semaine. C'est ainsi que la mère de Mary parvint à ses fins. Elle éleva sa fille comme un garçon. Quand celle-ci eut l'âge atteint de raison, sa mère jugea préférable de lui révéler le secret de sa naissance et la persuada de cacher son sexe. La grand-mère vint à mourir et ses subsides cessèrent avec sa vie. La situation pécuniaire de Mary et de sa mère se détériora. Celle-ci fut donc contrainte de placer sa fille, qui avait lors 13 ans, chez une dame française en tant que page. Elle n'y resta guère, car croissant en force et en témérité, et pourvue d'un tempérament aventureux, elle s'embarqua sur un navire de guerre en qualité de mousse. Elle servit à son bord quelque temps avant de gagner les Flandres, où elle s'engagea comme cadet dans un régiment d'infanterie. Eh bien, qu'en toute action elle se conduisit avec bravoure, elle ne put obtenir d'être nommée officier, faute d'argent pour acheter sa charge, comme c'est l'usage le plus courant. Elle quitta donc l'infanterie et s'engagea dans un régiment de cavalerie. Elle s'y conduisit si bien en plusieurs affrontements qu'elle s'y attira l'estime de tous les officiers. Mais elle tomba amoureuse de l'un de ses camarades, un jeune flamand qui se trouvait être fort beau garçon. Dès lors, elle se mit à négliger ses devoirs militaires. Il faut croire que Mars et Vénus ne purent être honorés en même temps. Ses armes et son uniforme, qui jusque-lors avaient toujours été impeccablement entretenus, furent laissés à l'abandon. Et cependant, il est non moins vrai que, lorsque son camarade était employé en quelque escarmouche, elle l'y suivait sans en avoir reçu l'ordre, s'exposant souvent ainsi au péril du combat, sans autre raison que le désir d'être à ses côtés. Les autres soldats, ne soupçonnant pas la cause secrète de sa conduite, la jugeaient folle, et son camarade lui-même ne s'expliquait pas cet étrange changement. Mais l'amour est ingénieux, et comme ils partageaient la même tente et se trouvaient à toute heure ensemble, elle trouva quelque moyen de lui découvrir son sexe par inadvertance. Fort étonné de sa découverte, il en fut aussi très content, croyant pouvoir s'assurer une maîtresse pour lui seul, chose fort inhabituelle dans un camp militaire, tant sont rares parmi les dames qui suivent d'ordinaire les troupes en campagne, celles qui restent fidèles ne serait-ce qu'à une compagnie entière. Il ne songea donc d'abord qu'à assouvir ses passions sans trop de cérémonie. Mais il comprit rapidement son erreur, car Mary, modeste et réservée, résista à toutes les tentations, tout en se montrant aimable et encourageante, tant et si bien qu'elle le persuada de changer de dessein et que, bien éloigné de la vouloir pour maîtresse, il se résolut à la courtiser dans la seule vue d'en faire son épouse. C'était là le plus grand vœu que Mary formait dans son cœur. Pour le faire court, ils échangèrent leurs promesses, puis, la campagne s'étant achevée et le régiment ayant pris ses quartiers d'hiver, ils achetèrent une tenue féminine pour Mary, avec le peu d'argent dont ils disposaient ensemble, et se marièrent au vu et au su de tous. Ces épousailles, entre deux soldats, firent grand bruit, au point que plusieurs officiers, attirés par la curiosité, assistèrent à la cérémonie. Ils convinrent en outre que chacun d'entre eux ferait un petit cadeau à la mariée, désireux de la doter en considération de leur camaraderie avec elle sur le champ de bataille. Ainsi pourvus, les nouveaux mariés manifestèrent leur désir de quitter le service pour s'installer dans le monde. L'aventure singulière de leurs amours et de leurs épousailles leur avait valu une telle faveur qu'ils n'eurent aucun mal à obtenir leur congé. Ils ouvrirent aussitôt une auberge, à l'enseigne des Trois Fers à Cheval, près du château de Bréda, où ils ne tardèrent pas à prospérer, ayant pour hôte une foule continuelle d'officiers. Mais ce bonheur ne dura pas, car l'époux de Mary mourut bientôt, et la paix de Ryswick ayant été conclue, les officiers cessèrent de stationner à Bréda, privant sa veuve de sa clientèle. Elle dut renoncer à son métier d'aubergiste, et son pécule s'épuisant, se résigna à rendosser sa tenue masculine. Elle se rendit en Hollande, où elle s'engagea dans un régiment d'infanterie, cantonné dans l'une des villes de la frontière. Elle n'y resta pas longtemps car il y avait peu d'apparence et qu'elle put obtenir de l'avancement en temps de paix. Elle prit donc la décision de courir fortune par d'autres moyens. Laissant là son régiment, elle s'embarqua sur un vaisseau à destination des Indes occidentales. Il advint que ce vaisseau fut capturé par des pirates anglais. Et Mary Read, étant la seule personne anglaise à bord, ils l'emmenèrent avec eux, laissant repartir le navire après l'avoir pillé. Elle partageait depuis quelque temps le sort de ses flibustiers quand une proclamation du roi fut publiée en tout lieu des Indes occidentales, faisant grâce aux pirates qui se constitueraient prisonniers avant telle date. L'équipage qui avait adopté Mary Read profita de ce pardon et, s'étant rendu, les pirates purent vivre en toute quiétude sur le rivage. Mais l'argent vint à manquer, Et, ayant eu vent que le capitaine Wood Rogers, gouverneur de l'île de la Providence, armait des vaisseaux corsaires contre les Espagnols, Mary Read et plusieurs de ses compagnons s'embarquèrent pour cette île, afin de parer leur rapine d'une lettre de course, bien décidés surtout à faire fortune par tous les moyens. De fait, certains de ces vaisseaux corsaires eurent à peine quitté le port que leurs équipages, si récemment graciés, se mutinèrent et revinrent à leur ancien métier. Mary Read était de ces mutins. Il est vrai qu'elle a souvent déclaré avoir toujours abhorré la carrière de pirate et n'y être entrée à chaque fois que sous la contrainte et en se promettant bien d'en sortir à la première occasion. Or, lors de son procès, certains témoins, embarqués de force et ayant servi à ses côtés, déposèrent sous serment qu'au moment du combat, nul parmi les pirates ne montrait plus de résolution et d'ardeur à l'abordage ou de bravoure face à tous les dangers que Mary Read et Anne Bonny. Et que ces deux femmes, lorsque leur vaisseau fut attaqué et capturé et qu'on en vint au corps à corps, furent seules à rester sur le pont avec un autre pirate. Mary Read exhorta ceux qui se terraient sous le pont à venir combattre comme des hommes, et voyant qu'ils ne bougeaient pas d'un pouce, déchargea ses armes dans la cale, tuant l'un d'eux et en blessant d'autres. Tels furent les témoignages qui l'accablaient, mais qu'elle contesta. Qu'ils fussent véridiques ou faux, il est certain en tout cas qu'elle ne manquait pas de bravoure. Sa pudeur n'était pas moins remarquable et conforme à sa conception de la vertu. Son vrai sexe ne fut jamais soupçonné par quiconque à bord, jusqu'à ce qu'Anne Bonny, moins réservée en matière de chasteté, se prit d'amitié pour elle. En bref, Anne Bonny, la prenant pour un beau jeune homme, et pour quelques raisons connues d'elle seule, découvrit son sexe. Mary comprit ce qu'Anne attendait, et trop certaine de ne pouvoir la satisfaire, se vit obligée de s'accorder avec elle. Et à la grande déception d'Anne Bonny, elle lui avoua qu'elle était femme, elle aussi. Mais leur intimité troubla tant le capitaine Rackham, qui était l'amant en titre d'Anne Bonny, qu'il en devint furieusement jaloux, s'emportant au point de jurer qu'il couperait la gorge de son nouvel amant. Pour apaiser sa colère, Anne Bonny n'eut d'autre ressource que de partager ce secret avec lui. Le capitaine Rackham promit de garder le secret et n'en dit mot à l'équipage. Malgré cela, et nonobstant toute la ruse et la réserve de Mary, l'amour la démasqua enfin et l'empêcha d'oublier son sexe. Croisant dans la mer des Caraïbes, les pirates s'emparèrent de maints navires qui voguaient entre l'Angleterre et la Jamaïque ou d'autres lieux des Indes occidentales. Et chaque fois qu'ils trouvaient sur leur prise un marin habile ou toute autre personne pouvant être utile à bord de leur propre vaisseau, ils l'enrôlaient de gré ou de force. Au nombre de ces captifs fut un jeune homme d'allure aimable que Mary Read trouva fort à son goût. Elle devint si éprise de sa personne et de sa conversation qu'elle n'en trouvait plus le sommeil. Mais comme il n'est rien de plus ingénieux que l'amour, et qu'elle avait déjà usé de pareilles finesses, elle ne tarda pas à concevoir le moyen de lui découvrir son sexe. Elle commença par s'insinuer dans ses bonnes grâces en déplorant leur vie de pirate pour laquelle il ne cachait pas son entière aversion. Ils devinrent ainsi compagnons de table et bons camarades. Lorsqu'elle fut assurée qu'il avait de l'amitié pour elle, elle se hasarda à lui découvrir son sexe en exposant par inadvertance une poitrine qui était fort blanche. À cette vue, la curiosité et le désir de ce jeune homme, fait de chair et de sang, s'enflammèrent. Il l'importuna avec tant d'insistance qu'elle dut lui avouer ce qu'elle était vraiment. L'amour enfin triompha. L'estime et l'amitié qu'elle suscitait en lui, quand il la croyait homme, se muèrent en tendresse et en désir quand il la sut femme. La passion de Mary n'était pas moindre que celle de son amant et la conduisit sans doute à accomplir l'une des plus généreuses actions que l'amour ait jamais inspirées. Il arriva que le jeune homme se prit de querelle avec l'un des pirates, et leur vaisseau étant à l'ancre près d'une île, convint avec lui de se battre à terre, selon la coutume des pirates. Mary Read connut les affres de l'angoisse quant au sort de son amant. Elle ne pouvait lui demander de refuser le duel, tant lui était odieuse l'idée qu'on pût le taxer de lâcheté. D'autre part, elle en redoutait l'issue, craignant que son adversaire ne soit trop fort pour lui. Quand l'amour embrase un cœur généreux, il l'incite aux plus nobles actions. Face à ce dilemme, elle montra qu'elle craignait davantage la mort de son amant que son propre trépas. Elle chercha donc querelle à l'adversaire de son amant, et l'ayant défié, elle fixa l'heure du combat 2 heures avant celle où les deux hommes devaient vider leurs différends. Elle l'affronta au sabre et au pistolet, et le tua sur le coup. Il est vrai qu'elle s'était déjà battue en duel lorsque, insultée par tel ou tel de ses forbans. Mais cette fois, ce fut pour sauver son amant de la mort, comme si elle ne pouvait pas vivre sans lui. Quand bien même il n'eût éprouvé aucun penchant pour Mary, un tel acte de bravoure eût suffi à l'attacher à elle pour toujours. Mais il n'y eut pas de cérémonie consacrant leurs liens et obligations mutuelles. L'inclination du jeune homme pour Mary y suppléa largement. Finalement, ils échangèrent les plus doux serments, qui, aux yeux de la jeune femme, valaient bien, en toute conscience, un mariage célébré par un ministre à l'Église. De cette union vint sa grossesse, dont elle argua lors de son procès pour avoir la vie sauve. Elle y déclara qu'elle n'avait jamais commis le péché d'adultère ou de fornication. Elle s'en remit au tribunal pour qu'il distingue la nature exacte des crimes dont les prévenus étaient accusés. Ainsi, son mari, car c'est comme ça qu'elle le nommait, fut acquitté aux côtés d'autres prévenus. Quand on demanda à Mary qui il était, elle refusa de révéler son nom mais déclara que c'était un honnête homme qui réprouvait les actes de piraterie et qu'ils avaient tous deux résolu de fausser compagnie aux pirates à la première occasion pour gagner leur vie en toute probité. Il est hors de doute que certains de ses juges éprouvèrent de la compassion pour elle, mais ils ne purent éviter de la déclarer coupable. Car un témoin, qui avait été capturé par Rackham et détenu à bord du vaisseau pirate, déposa que, étant entré par hasard en conversation avec Mary Read, qu'il prenait pour un jeune homme, il lui avait demandé quel plaisir elle pouvait trouver à de telles entreprises qu'il exposait sans cesse au danger de périr par le fer ou par le feu, ajoutant qu'elle devait s'attendre à connaître une fin ignominieuse si elle était prise vivante. Elle répliqua que pour la pendaison, elle ne la redoutait pas, puisque, sans la peur du gibet, tous les lâches se feraient pirates et infesteraient les mers, réduisant les braves à la famine, et que les vrais pirates ne voulaient pour eux d'autre châtiment que la mort, dont la crainte maintient dans l'honnêteté tant de fiefés coquins. Elle ajouta que nombre de ceux qui friponnent la veuve et l'orphelin ou rançonnent leurs pauvres voisins, qui sans argent ne peuvent obtenir justice, rejoindraient la flibuste, couvrant de coquins l'océan sur lequel plus aucun navire marchand ne se risquerait. Un examen confirma qu'elle attendait en effet un enfant et fit ainsi sursoir à son exécution. Et il est possible qu'elle se fût ensuite attirée la clémence des autorités. Mais peu après son procès, elle fut prise d'une fièvre maligne dont elle mourut en prison.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, lu et approuvé se termine donc ainsi par la mort. C'est un peu glauque à la fin quand même, la mort de Mary Read, mais nous vous avons lu la vie de Mary Read. Alors, c'est paru à nouveau aux éditions Libertalia, je crois, c'était il y a quelques semaines à peine, ou quelques mois qu'il est sorti, 2015 en tout cas. Et donc ça s'appelle Femme Pirate, donc c'est de Daniel Desfouets. Et donc, comme je vous l'ai lu, je crois, dans l'introduction, en fait, ça fait partie d'un écrit beaucoup plus large qu'il avait écrit sur les pirates. Et donc, il faisait des biographies de pirates, dont ces deux femmes. Alors, il y avait Anne Bonny et Mary Read. Anne Bonny, la partie qu'il écrit sur Anne Bonny est moins intéressante, je trouve, en tout cas. Elle m'a moins plu, donc je voulais pas vous la lire ce soir. Et seulement celle de Anne Bonny. Et puis, y a ces deux vies-là, et puis après, il y a quelques écrits en anglais aussi dans la parution qui vient de sortir aux éditions Libertalia. Bon, c'est pas mal. Donc, vous pouvez nous réécouter si vous le souhaitez, ou réécouter les vieilles émissions. Voilà, toutes les émissions sont en podcast sur le site internet de canalsud.net. Si vous voulez nous contacter aussi pour nous proposer une lecture ou pour venir lire à l'antenne, eh ben, ce serait avec plaisir. Vous pouvez nous contacter donc par mail, par exemple, lu@guyade.org, lu@guyade.org, gwiad.org. Et puis, sinon, vous pouvez nous écrire également, 40 rue Alfred Duméril, émission Lu et Approuvé, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse. Et bien sinon, vous pouvez vous rendre aussi sur notre blog où il y a un peu plus d'informations parfois que sur la page de Canal Sud. Notre blog, c'est lu et approuvé. Noblogs.org. Voilà, eh bien, heureux de vous avoir lu cette petite histoire. La semaine prochaine, pas de lu et approuvé. Donc rendez-vous dans 2 semaines. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Demain matin, c'est Dixie Bop à partir de 10h du matin. Salut.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world.